Religion du Monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Focus sur le Liban avec la rencontre qui s'est tenue au Vatican jeudi entre le pape et 10 responsables des églises chrétiennes libanaises, catholiques, protestantes et orthodoxes. Marasme économique sans précédent, crise sanitaire, plus de la moitié du pays qui vit sous le seuil de pauvreté. Face à la décomposition de l'État libanais, les religieux chrétiens ont réagi et c'est suite à la demande du catholicos de l'Église apostolique arménienne, Aram Ier, que le pape François a convoqué ce sommet œcuménique. Pour prendre le pouls de la situation, avec nous en ligne Vincent Gelot, directeur Liban de l'Œuvre d'Orient. L'Œuvre d'Orient, association catholique qui œuvre au Proche-Orient depuis plus de 160 ans dans le domaine de l'éducation, de la santé, sans distinction de religion. Vincent Gelot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes depuis 5 ans au Liban, donc pour l'Œuvre d'Orient. À quel signe voyez-vous une dégradation de la situation ?
Écoutez, le pays aujourd'hui est en situation de crise humanitaire. On s'est habitué à entendre dire que le Liban était en crise, comme une petite musique qui s'est installée depuis un certain nombre d'années. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une vraie crise humanitaire à laquelle le Liban fait face. À l'heure où je vous parle, d'abord 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 2 $ par jour. On est face à un chômage de masse. Aujourd'hui, certaines maisons n'ont que 2 à 3 heures d'électricité par jour, avec toujours un système de générateur qui prend le relais mais qui marche avec du mazout. Or, le mazout aujourd'hui est extrêmement cher par rapport à ce que gagnent les Libanais et presque introuvable. Aujourd'hui, pour remplir un quart de plein, vous devez attendre plusieurs heures en face des stations essence qui sont ouvertes. À l'heure actuelle, vous avez des tickets de rationnement qui ont été mis en place. Vous avez véritablement des familles, des foyers entiers qui meurent de faim. Et puis, vous avez également, rappelons-le, au Liban, plus de 1 500 000 réfugiés palestiniens, mais notamment syriens. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui, si le Liban tient encore, c'est bien grâce à la solidarité familiale, celle du village, de la communauté, et puis grâce au tissu associatif et humanitaire qui tient à bout de bras ce qui reste à tenir. Mais sinon, le pays actuellement est un bateau ivre à la dérive qui attend le premier récif pour s'effondrer malheureusement.
Combien de temps cette situation peut-elle encore durer ?
Écoutez, à mes yeux, elle ne peut pas durer longtemps. Les Libanais ont connu un déclassement inédit en l'espace de 2 années qu'ils n'ont même jamais connu pour ceux qui avaient connu la guerre civile. Donc cette situation n'est pas tenable même à court terme. Et je le dis avec beaucoup d'inquiétude, et je crois que les Libanais aussi sont inquiets, on sait que le Liban est un pays fragile, de par son histoire, de par ses composantes religieuses et communautaires, et puis aussi par ses rivalités partisanes aussi, et puis aussi par l'implication des pays extérieurs. Donc tout cela mis ensemble, plus cette crise terrible qui frappe chaque foyer libanais, rend toujours plus fragile ce pays. Et honnêtement, je vais vous dire franchement, actuellement au Liban, on ne se demande pas s'il va se passer quelque chose, mais plutôt quand et comment.
Je vous remercie, Vincent Gelot. Donc, je rappelle que vous êtes le responsable, vous êtes le directeur Liban de l'Œuvre d'Orient. Merci.
Merci, Geneviève.
À l'heure où nous enregistrons, nous ne connaissons pas l'issue de la rencontre du 1er juillet au Vatican entre le pape et les chefs religieux chrétiens libanais, ni l'appel de François qui, on le sait, souhaite se rendre au Liban. Sur cette crise libanaise, Mgr Golnisch, directeur de l'Œuvre d'Orient, rappelle qu'elle se préparait en fait depuis longtemps.
Le Liban est en crise grave, nous le savons tous, et qui est en fait une crise très ancienne. C'est pratiquement depuis la guerre civile que, sans que nous nous en rendions compte, le Liban s'est dégradé d'année après année. C'est pas simplement une crise qui a surgi il y a 2 ans, il y a 3 ans, ou depuis l'explosion du port de Beyrouth. C'est une crise profonde et longue. Mais, vous savez, il y a la crise dans la crise. C'est-à-dire, d'abord, vous êtes accablé parce que vous n'avez pas de quoi manger, parce que vous n'avez plus de travail, parce que, etc., tout est bloqué, vous ne pouvez plus mettre d'essence dans votre véhicule, enfin bref, une crise. Mais la crise dans la crise, c'est qu'on ne voit pas de vision, on ne voit pas d'avenir. Vous voyez, par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de villes de France étaient détruites, etc., mais il y avait un espoir parce qu'il y avait le Conseil national de résistance, parce qu'il y avait le général de Gaulle, etc. Donc, on savait qu'on était dans une situation très difficile, mais il y avait un chemin, mais il y avait une perspective. Et là, ce qui pourrait manquer au Liban, c'est cette perspective qui ajoute donc de la désespérance à la crise, qui fait qu'on ne se voit même pas retrousser ses manches pour sortir de la crise, parce qu'on est désespéré. Je pense que cette journée est de nature à faire naître l'espérance. Et donc, ça a un effet je dirais, second, à long terme, ça ne se fait pas tout de suite, mais à partir du moment où, où l'espérance est sommée, où on a indiqué une voie, où on a indiqué aussi aux Libanais qu'ils n'étaient pas seuls, et bien là, je crois qu'on on a une ouverture qui va se traduire en action.
Alors, est-ce que précisément le fait que cette réunion se déroule au Vatican, ça pourrait alerter, j'allais dire un peu plus encore, les décideurs, enfin ceux qui peuvent faire quelque chose pour que le Liban sorte de cette impasse?
Alors, absolument, parce que évidemment, le fait d'être avec le pape et que le pape ait participé aux travaux de la journée donne évidemment un écho international très fort à ce qui se dit. Mais aussi message aux Libanais, parce que ce n'est pas qu'un problème de communauté internationale. Il faut que les Libanais croient en eux-mêmes, et donc ils croient qu'ils ont les moyens en eux-mêmes de sortir de cette crise. Il y a des efforts qui doivent venir des Libanais pour qu'ils prennent en main leur propre avenir. Alors bien sûr, il y a des choses qui relèvent de la communauté internationale, surtout que la communauté internationale parfois se mêle moins du Liban et laisse les Libanais gérer leurs propres problèmes. Mais on sait aussi qu'il y a des puissances régionales qui interviennent, etc., d'où les appels du patriarche Raï à ce qu'il a appelé la neutralité du Liban. Mais il y a quelque chose qui doit venir des Libanais. Vous voyez, les Libanais ne sont pas des assistés dans un EHPAD. Ce sont des gens qui doivent prendre en main leur propre avenir pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour l'avenir de leur pays. Je suis persuadé qu'ils en ont les ressources. Mais il faut le leur révéler à eux-mêmes, en quelque sorte.
Que peuvent apporter précisément des leaders religieux chrétiens à cette résolution de la crise libanaise? On pourrait aussi se dire qu'il n'y a pas de musulmans, que ça n'est qu'une partie, si je puis dire, du pays qui est représenté.
Alors, d'abord, il y a ce qu'ils ne peuvent pas apporter, c'est-à-dire avoir une attitude de défense d'un bastion chrétien refermé sur lui-même dans des hauts murs de forteresse et à craindre des adversaires qui lui feraient un siège. Ça, c'est pas cela qui peut aider. En revanche, je pense qu'il faut que les chrétiens soient non pas dans une forteresse retranchée, mais au cœur du dispositif. Qu'ils reprennent confiance qu'eux parlent avec les sunnites, ils parlent avec les chiites, ils parlent avec les druzes. Parce que beaucoup des problèmes du Moyen-Orient, ce n'est pas tellement entre les chrétiens et les musulmans. Les problèmes du Moyen-Orient, c'est entre les sunnites et les chiites, qui se retrouvent ensemble d'ailleurs au Liban. Les chrétiens au Liban doivent être mis au cœur du dispositif, et donc qui effectivement doit s'ouvrir au reste de la population. Et donc évidemment, l'avenir du Liban ne se fera pas sans les musulmans et les druzes, sans les sunnites, les chiites et les druzes. Mais pour ça, il faut quand même déjà que les chrétiens se mettent un peu d'accord entre eux. Les évêques du Liban ne sont pas des hommes politiques, ce n'est pas eux qui vont former le gouvernement, ni même les chrétiens au gouvernement, ce n'est pas eux qui vont désigner une ligne politique, ce n'est pas leur travail. Mais ils vont donner les principes, les lumières, les perspectives qui doivent permettre aux politiques de se mettre en mouvement. Et donc là, je crois que ce sera... Vous voyez, ce n'est pas un rôle direct. Encore une fois, le patriarche maronite n'est pas celui qui désigne les ministres qui doivent être chrétiens du gouvernement ou qui désigne les députés chrétiens aux élections. Ce n'est pas cela, le Liban. Le patriarche maronite, lui, il doit donner des lignes de fond. Et les valeurs, la hiérarchie des valeurs, je pense appelé à la conversion. Je pense qu'il y a des Libanais, y compris des Libanais chrétiens, qui peut-être avaient perdu un certain nombre de sens des valeurs fondamentales. Voilà ce qu'il doit indiquer. Ça, ça doit être traduit dans l'action par les politiques. À chacun son travail.
Monseigneur Golnisch, directeur de l'Œuvre d'Orient. Les participants à ce sommet œcuménique au Vatican, Monseigneur César Essaillant, vicaire apostolique de l'Église latine au Liban. Né dans une famille arménienne orthodoxe, il a été formé chez les frères maristes. Très investi auprès des plus démunis, il est connu pour son franc-parler. Et quand il parle du travail de purification de la société libanaise, il insiste à la fois sur la nécessité pour les chrétiens de relire de façon critique leur histoire, à savoir les affrontements fratricides, donc entre chrétiens au cours de la guerre civile de 1975, et du côté de l'Église, à rompre avec le système général de la corruption au Liban.
La corruption, si nous pensons que la corruption n'a pas atteint toutes les couches et toutes les institutions, y compris celle de l'Église, nous nous trompons. Pourquoi ? Parce que nous faisons tous partie de la population libanaise. Ça fait des années et des années que la corruption sévit au Liban. Et c'est un système qui est corrompu. C'est devenu aussi dans notre mentalité, dans un certain sens. Et il faut accepter que nous avons tous été touchés d'une façon ou d'une autre. C'est très subtil des fois. Ce n'est pas que nous avons voulu entrer dans ce système, mais le système, des fois, nous mange. Il nous oblige à devoir nous traiter avec lui qu'à travers, par exemple, des pots de vin, qu'à travers des pistons qu'il faut avoir à droite et à gauche et de services à rendre. Dans toutes nos institutions, la corruption, d'une façon ou d'une autre, est entrée. L'Église a besoin de faire transparence, de faire retour en arrière, de se poser des questions et de voir justement se resituer par rapport à tout le discours, au moins celui de la corruption et celui aussi d'avoir laissé notre peuple dans un certain sens tomber dans ce servilisme. Un autre point qui est important et qui demande une purification aussi de la mémoire, c'est-à-dire les relations des chrétiens entre eux. Nous comprenons très bien que nous pouvons être autant de partis que nous voulons, que nous pouvons avoir des orientations politiques différentes, mais arriver justement à craindre de reprendre les armes d'un parti chrétien contre un autre parti chrétien, ça, ce n'est plus acceptable. Et ce sont des choses qui se sont passées au Liban dans le temps, et les statistiques disent, malheureusement, on vient de le dire, ça ne fait pas très longtemps, que les guerres fratricides chrétiennes, donc les guerres entre chrétiens, ont fait plus de morts, entre les chrétiens évidemment, que parmi les chrétiens quand ils ont combattu contre les musulmans. Et là, il faut que l'Église et la communauté chrétienne se posent des questions. Qu'est-ce qui a fait que dans une même maison, on a pu nous entretuer seulement pour être fidèle à un leader politique, à un leader, à un seigneur de guerre qui a fini par nous asservir tous ensemble et sans pitié, uniquement pour leurs propres intérêts. Ça, il faut aussi que l'Église aide à relire, à faire mémoire de ça, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et à construire une véritable réconciliation, non pas une réconciliation qui va dans l'intérêt des chefs politiques et des seigneurs de la guerre, mais dans l'intérêt du plus pauvre des pauvres, de ceux qui font notre communauté, de ceux qui ont vu dans leur propre famille des frères s'entretuer pour quelqu'un d'autre et non même pas pour le bien du pays. Il me suffit de donner ces deux exemples pour montrer la gravité de la situation dans laquelle on se trouve.
Monseigneur César Essayant, vicaire apostolique de l'Église latine au Liban, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse donnée à la veille de la rencontre au Vatican entre les leaders religieux chrétiens libanais et le pape François. Son amour du Liban, assurer la survie des chrétiens du Liban, garant du vivre ensemble, livrer sa vision des réformes qui s'imposent, faire émerger le citoyen libanais d'une société où cohabitent 18 confessions, chrétiennes, chiites, sunnites, druzes, alaouites, raconter ses combats présents et passés, c'est le témoignage du docteur Fouad Abou Nader livré dans son essai « Liban, les défis de la liberté, le combat d'un chrétien d'Orient » écrit avec Nathalie Duplan et Valérie Rollin et publié aux éditions de l'Observatoire. Fouad Abou Nader appartient à la grande famille libanaise des Gemayel. Il est le petit-fils de Pierre Gemayel, artisan de l'indépendance du Liban en 1943, et le neveu de Bachir Gemayel, assassiné en 1985 trois semaines après son élection à la présidence de la République. Jeune médecin entré dans la résistance armée pendant la guerre du Liban en 1975, qui va durer 15 ans jusqu'en 1990, devenu commandant en chef des forces libanaises, il a combattu les Palestiniens et l'occupation syrienne. Aujourd'hui, il entend mettre à profit ce que la guerre lui a appris au service de la paix et de la reconstruction économique, politique et sociale du Liban avec l'ONG Naourage qu'il dirige. Le docteur Fouad Abounader est venu à RFI avec Nathalie Duplan lors de son récent passage à Paris.
Je vous remercie. Je veux juste ajouter une chose à ce que vous avez dit. Oui, j'ai participé à la guerre. J'ai commencé par l'échelon le plus bas, le simple soldat, et j'ai gravi les échelons petit à petit. Le but de ce livre, c'est que je ne veux pas que mes enfants refassent la guerre. Voilà, en deux mots. Je veux essayer, tant que je suis encore, j'ai la santé, essayer de retrouver une solution pour leur donner un Liban plus stable, et pérenne, moderne, et qui est un peu dans leurs aspirations. Et c'est pourquoi je me suis basé beaucoup sur ce qu'on a fait durant la guerre, sur ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu durant la guerre, les souffrances que j'ai endurées moi-même et ce que j'ai vu autour de moi, pour dire finalement, il faut qu'on profite de cette horrible expérience et de rendre cette expérience négative en quelque chose de positif, c'est-à-dire essayer de proposer une feuille de route pour une solution au Liban. Voilà, c'est ça le but finalement du livre.
Alors aujourd'hui, en fait, on parle davantage d'un Liban au bord du gouffre, qui est dans un désastre économique, que de cette guerre. Et vous, en revanche, vous mettez la guerre en miroir avec ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voulez tirer de la guerre, qui occupe une partie de votre livre, oui. Ça n'est pas une chronologie, mais vous voulez tirer de cette expérience des leçons pour aujourd'hui. Alors qu'il semblerait, de façon générale, qu'on parle peu de la guerre aujourd'hui du Liban.
Oui, absolument. Surtout après la banqueroute qu'on a vue en 2019, la faillite du système économique libanais. Ensuite, il y a eu la Covid avec tout ce qu'il y a eu comme institutions économiques qui ont fermé. Et ensuite, l'explosion du port. Voilà, nous avons eu trois cataclysmes l'un après l'autre. Et bien sûr, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché le moral de tous les Libanais et des chrétiens en particulier. Mais c'est là où un peu il faudrait qu'il y ait une lueur d'espoir qu'on donne à ces gens-là. Et cette lueur d'espoir, c'est que le Liban a vu plusieurs fois, nous avons vu plusieurs fois dans notre histoire, des cataclysmes aussi forts. Durant la Première Guerre mondiale, 1915, on a eu bien sûr les affres de la guerre, les Ottomans, avec toutes les vexations des Ottomans, et en plus, on a eu la famine. On a eu la famine parce que les Ottomans ont encerclé la montagne et voulaient affamer surtout les chrétiens pour les tuer comme ils ont fait avec les Arméniens. Et deuxièmement, on a eu les criquets qui sont venus pour ce qui restait encore de plan vert pour les complètement éradiquer.
La grande catastrophe au Mont-Liban. Oui.
Absolument. Donc, on est passé par ça. On a vu malheureusement dans notre histoire, sur les quelques centaines d'années qui sont passées derrière nous, autant de temps difficiles. Donc, oui, on peut récupérer. Et c'est un peu le message que je veux faire passer à la jeunesse d'aujourd'hui. Et ensuite, ce que je veux dire à la jeunesse, c'est que à cette jeunesse qui s'est réveillée le 17 octobre 2019 et qui a dit halte à tous ces legs négatifs qu'on leur a donnés, tout ce sectarisme, cette division entre les régions, entre les communautés religieuses, etc. Les jeunes ont dit c'est fini, on n'en veut plus, on veut un nouveau Liban qu'on veut construire nous, sans les préjugés de nos aînés. Et c'est ça, si vous voulez, la grande nouveauté qu'il y a eu en 2019. Et c'est sur cette nouveauté qui m'a donné à moi aussi un espoir. À moi et à beaucoup de gens qui étaient comme moi. Parce qu'après la guerre, en 1990, nous avons fait un rassemblement de gens qui ont combattu, comme moi-même. Et on a décidé qu'est-ce qu'on devrait faire pour ne pas que nos enfants refassent la même chose. Et on a trouvé, on a mis le doigt sur le problème essentiel, qui est la lutte pour le pouvoir entre les différentes communautés au Liban. Et chaque communauté, pour se renforcer, prenait un allié extérieur et finalement vendait son âme à cette soi-disant allié de l'extérieur.
18 communautés, il faut le
rappeler. Oui, 18 communautés au Liban. Et finalement, c'est ça le problème. Et toutes ces communautés ont peur de l'autre. Donc, les responsables politiques actuellement, ils ont un intérêt à maintenir cette peur de l'autre pour justement créer le clientélisme qui les ramène au pouvoir. Donc c'est ça, si vous voulez, ce cercle vicieux dans lequel nous sommes actuellement et qui nous a entraînés à ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'après 1990, après l'accord de Taif qui a été fait, et il y a eu trois grands problèmes dans l'accord de Taif d'après moi. Un, on avait une seule tête qui était le président. Aujourd'hui, nous avons trois têtes. le président du Conseil, du Parlement et le président de la République qui n'a plus beaucoup de...
Donc il y a un maronite, c'est donc le président de la République,
oui.
Le premier ministre est sunnite.
Sunnite.
Et le président du Conseil
du Parlement qui est chiite.
Et chiite, c'est
voilà.
Ça.
Donc chacun d'eux est actuellement à sa propre émirat, si vous voulez. Donc le problème actuellement, c'est que Taïf n'a pas réglé le problème de fond. Donc ils se sont dit, bon, ou bien on fait la guerre, les gars, ou bien on fait une paix comme ça, on se distribue le gâteau, et chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. En 30 ans, le pays est arrivé là où il est. Donc, pratiquement, c'est ça le problème. Il faut absolument aller régler le problème de cette division interne, régler le problème des ingérences extérieures et commencer à créer le citoyen libanais. Voilà, ça, ce sont les trois choses qui vont, d'après nous, être réglées. Un, par la neutralité du Liban, qui, elle, va empêcher que les ingérences de l'extérieur. Deux, créer un système de décentralisation avancée et poussée, c'est-à-dire un régionalisme un peu à l'italienne ou à l'espagnole, qui, lui, va donner une certaine autonomie au niveau des services pour que les gens sentent que l'argent qu'ils sont en train de payer, et pour les inciter à payer leurs impôts, nous sommes en train d'avoir en retour l'électricité, le ramassage des ordures, etc., la
oui.
santé, etc.
Assainir, voilà. Assainir.
Donc, nous sommes en train de préconiser de rebâtir la société libanaise sur une interaction entre les intérêts économiques et sociaux des gens. Parce que c'est comme ça qu'on va bâtir un nouveau concept d'entraide. On va se faire peut-être la compétition qui va donner plus une qualité de vie, qui va attirer plus de touristes. Et c'est ça, si vous voulez, d'après moi, qui va être le fondement principal de ce nouveau Liban. Et par la suite, juste pour terminer, et nous devons absolument pour créer un citoyen libanais, parce que vous savez que le Libanais aujourd'hui se marie, divorce, hérite, chacun selon son rite, même pas chrétien, c'est-à-dire les chrétiens orthodoxes, maronites, syriaques, etc., ensuite chiites, sunnites, druzes, alawites. Donc chacun a son propre système, son propre tribunal, son propre... Il faut absolument unifier le statut personnel dans le statut civil pour que finalement on crée une vraie symbiose entre les gens et qu'on permette aux gens de se rencontrer plus facilement et bien sûr de bâtir un citoyen libanais.
Nathalie Duplan, vous qui avez donc participé à l'écriture de ce livre avec Valérie Rollin, vous qui allez donc régulièrement au Liban, déjà la situation actuelle, là on a parlé de l'électricité quelques heures par jour, tout est comme ça
Oui, tout est comme ça, la situation est catastrophique et c'est pour ça que c'est intéressant d'entendre quelqu'un comme le docteur Abou Nader, parce qu'au milieu de cette situation catastrophique, c'est une voie positive. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas sur qu'est-ce qui va mal, puisque tout le monde en parle toute la journée. Sa question, c'est pas de se dire est-ce qu'on va y arriver, est-ce que non. Il se dit qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça aille mieux. Et c'est ça qui est intéressant.
Donc, avec cette idée fondamentale, centrale, de créer le citoyen libanais libéré de ses attaches confessionnelles ou pas.
Bien sûr, communautaire, sectaire, bien sûr.
Oui.
C'est-à-dire que, bien sûr, c'est pas jeter l'appartenance à la mer, mais c'est faire en sorte que un Libanais se sente d'abord Libanais avant de se sentir maronite, syriaque, chaldéen, chiite, sunnite, druze. C'est relativement simple, en fait. Et je voudrais attirer l'attention sur une chose, c'est que les solutions que le docteur Abou Nader apporte dans son livre sont finalement... Oui, elles sont simples, c'est du bon sens, c'est ce qui devrait arriver. Ce qui leur donne du poids, c'est que c'est quelqu'un de cohérent qui les porte. Vous parliez de la guerre tout à l'heure. Les solutions que le docteur Abou Nader propose, il les a déjà expérimentées. Dans d'autres circonstances, c'est vrai, en temps de guerre, mais il les a expérimentées. C'est ce qui donne du poids aux propositions qu'il fait. Un, il les a expérimentées, et deux, la personnalité, à savoir une personne cohérente et qui a les mains propres. C'est rare aujourd'hui.
C'est rare au Liban. Ces expériences,
oui.
Citez-en quelques-unes quand même, c'est important d'incarner des propos.
Oui, je veux juste mettre entre parenthèses une chose, c'est qu'au Liban, il y a 1611 villages. Sur les 1611 villages, il n'y a presque aucun village qui est mixte entre les musulmans sunnites et les musulmans chiites. ni entre les musulmans druzes, qui ne sont pas tellement musulmans, entre les druzes et les sunnites, les druzes et les chiites. Par contre, le chrétien vit avec toutes les communautés, les autres communautés. Ce qui fait que le chrétien au Liban, c'est un peu le ciment de ce pays, c'est un facteur de paix. C'est des gens qui bâtissent des ponts entre les différentes communautés quand il y a un conflit. Donc ça, c'est une chose qui est essentielle aujourd'hui.
Maintenant, vous l'avez expérimenté, par exemple, dans des prises d'otages ou,
Absolument, hein, je vais vous citer un exemple. Ouais, ouais. Et ça, c'était un exemple très récent, c'était en 2014, où quand il y a eu, en 2014, une bataille rangée entre les gens de Daesh, les terroristes de Daesh avec l'armée libanaise, dans un village au nord-est du Liban qui s'appelle Ersal.
Près de la Syrie, oui.
Oui, sur la frontière syrienne. Oui. Donc, il y a eu beaucoup de blessés et de morts dans les rangs de l'armée. Et ensuite, les gens de Daesh se sont retirés du village, les 2500 à 3000 combattants, et ils ont pris avec eux 41 otages de l'armée et de la gendarmerie. Ils ont immédiatement tué 3 chiites. Ce qui a fait une réaction chez les chiites qui ont kidnappé des Libanais de Ersal, sunnites, et vice-versa, les gens de Ersal ont kidnappé des chiites. Alors, le maire de Ras Balbek, qui est un village chrétien, de Ras Balbek, pas de Balbek, a fait les contacts avec les deux maires des deux villages, et l'échange des kidnappés s'est fait dans le village chrétien. Donc, s'il n'y avait pas eu ce maire chrétien dans un village chrétien, il y aurait eu peut-être beaucoup plus un bain de sang dans la région. Voilà, c'est pour vous donner un peu le rôle de chrétiens dans ce pays.
Mais ça, on le sait hein, depuis longtemps, que les chrétiens sont des passeurs, sont des ponts, etc. Le seul problème, c'est que les chrétiens, une partie quitte le pays, parce que c'est difficilement vivable en ce moment.
Ils ne sont pas les seuls à partir.
Ils ne sont pas les seuls à partir. Oui. Docteur Abou Nader.
Oui, même les musulmans quittent beaucoup plus. S'il y a un chrétien qui quitte, il y a en face 3 musulmans qui quittent. Ah, donc, oui. c'est ça qu'il faut un peu garder à l'esprit. Bon, je vais vous donner un exemple très rapide aussi, comment j'ai expérimenté durant la guerre. Durant la guerre, c'était une guerre, disons, après la guerre de la montagne en 1983, il y a eu un grand clash entre nous, les Druzes, les Palestiniens, les Syriens, etc. Mais surtout avec les Druzes à ce moment-là. Donc, après un an de cette guerre qu'on a perdu finalement cette guerre dans la montagne, on a expérimenté une nouvelle relation avec le Druze. Et avec ce Druze-là, nous avons tissé des liens par la suite. Parce que, ok, on était arrivé à un point où il y avait une ligne de démarcation qui était respectée. Et par la suite, on a pu, à travers ce contact avec les Druzes, de tisser justement ces liens. Et on a pu arriver à réfléchir que, ok, si jamais les chrétiens quittent de cette région, qu'est-ce qui va arriver? Et est-ce que vous voulez qu'ils soient remplacés par des Palestiniens, par des Syriens ou par des chiites? Donc à ce moment-là, les Druzes ont tout de suite dit « Non, on préfère que vous restiez au milieu pour qu'il y ait justement une zone tampon entre nous et les autres parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec nous les autres. » Donc malgré le fait qu'on s'est fait la guerre, ils ont préféré la présence des chrétiens et idem chez les chiites. Quand on a parlé avec les chiites, ils nous ont dit « S'il vous plaît, restez là parce que c'est un point de passage pour nous vers le sud. On préfère passer alors que vous êtes là au lieu que ce soit les Druzes. » Donc, par la suite, après la guerre, on a rencontré les différentes personnes qui étaient contre nous, on était en guerre, et j'ai découvert que vraiment ces gens-là réfléchissaient comme nous. C'est-à-dire, on ne veut plus que nos enfants retombent dans les mêmes erreurs ou refassent la guerre. Et c'est comme ça qu'on a pu rebâtir des liens très forts entre nous, et on s'est mis d'accord qu'il faut aller parler aux gens pour recréer des liens au niveau de la base, pas seulement au niveau des responsables politiques. Et c'est ce qu'on a fait finalement.
Mais qu'est-ce que représente Narouaj oui. Est-ce que c'est minoritaire Nathalie Duplan, je vous pose la question. Hein. qu'est-ce que vous représentez?
Déjà, l'ONG Narouaj du docteur Abou Nader, c'est une ONG. Donc, elle porte certaines actions très concrètes, mais après, ça reste une ONG. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que les solutions qu'elle propose peuvent être déclinées au niveau de l'État. C'est-à-dire que la décentralisation que prône le docteur Abou Nader, qui est faite de manière très concrète lorsque les équipes de Narouaj vont sur le terrain voir des maires ou des responsables politiques dans des petits villages reculés. Si vous essayez d'avoir une école qui reste ouverte, un dispensaire qui ouvre, un hôpital qui est équipé, l'État devrait le faire, et il ne le fait pas. Ça fait des années que c'est pas fait de manière équitable, on va dire, sur l'ensemble du territoire. Il se passe au Liban le même exode rural qu'on connaît en France. Donc, effectivement, c'est quelque chose à la fois de très petit, mais qui ne demande qu'à grandir et qui peut être multiplié à l'infini. C'est une question de moyens, après.
Et est-ce que vous êtes entendu dans la classe politique ? Par exemple, cette question de la citoyenneté libanaise, fondamentale, est-ce que ça s'est entendu ou est-ce que ça dérange les caciques ?
Oui, bien sûr, ça dérange beaucoup.
Ouais.
Mais nous sommes convaincus qu'il faut continuer. Ouais. Il faut absolument, parce que finalement, nous avons mis, si vous voulez, un projet sur les rails. Et c'est ça, l'année prochaine, nous allons avoir des élections. Nous allons créer une équipe et des candidats aussi qui vont rentrer dans ces élections en ayant en tête un projet. Nous allons proposer un projet concret dans lequel il y a la neutralité, le régionalisme et bien sûr le côté comment nous allons unifier le statut social, le statut civil pour justement créer ce citoyen. C'est très important d'enraciner les gens là où ils sont.
Oui.
Donc, comme elle vous a dit, la santé, l'école, et la création d'emplois. Et c'est là où il y a des gens qui étaient autour de nous, disons, de villages où il y a d'autres communautés, qu'elles soient druzes, sunnites ou chiites, qui ont tapé à notre porte en disant « Hey, incluez-nous dans votre projet de développement parce que nos gars, on ne les voit pas, ils ne sont pas présents. » Donc, on a commencé à exécuter sur le terrain ce que je vous ai dit, c'est de créer, de tisser des liens et de trouver les intérêts communs économiques ou sociaux qui, eux, peuvent amener les gens justement à bâtir ensemble.
Vous partez du terrain, en fait. On attend, voilà, vous aurez du boulot, vous aurez des hôpitaux. Donc, la suite de ça, c'est qu'effectivement, il faut cesser avec ce confessionnalisme séparatiste. Ah. Donc, ça veut dire qu'un jour, peut-être au Liban, prochainement, vous pensez qu'il ne pourrait plus y avoir sur la carte d'identité votre appartenance religieuse, c'est possible ou pas ?
Si, on va y arriver.
Vous pensez ?
Oui,
combien,
absolument.
À combien, votre avis, l'horizon ?
Moi, je crois qu'il faut que cette nouvelle génération un peu prenne les jeunes qui ont commencé en 2019. Il faut leur donner peut-être 10 ans et je crois qu'il y aura un changement majeur.
Vous parlez d'un mariage de raison. Voilà.
Oui.
On n'est pas obligé de s'aimer, forcément. Mais un mariage... D'ailleurs, c'est ceux qui tiennent bien, finalement, les mariages de raison. Ça tient mieux que le mariage passion. Docteur Abou Neder.
Oui, parce que je considère qu'en 1920, il y a eu un mariage d'amour, soi-disant un mariage d'amour entre les musulmans et les chrétiens, et la fondation du Grand Liban le 1er septembre 1920. Ça fait 100 ans, le Liban. Donc, il s'est avéré que ce mariage d'amour s'est avéré être un mariage vraiment avec beaucoup, beaucoup de problèmes et beaucoup de malheurs et de choses. Parce que le Liban est entre deux pays. Un pays qu'on ne reconnaît pas qui est Israël, et un pays qui ne nous reconnaît pas, qui est la Syrie. Parce que pour la Syrie, le Liban, c'est une région, c'est un département syrien. Donc pour eux, c'est l'Anschluss. C'est tout ce qu'ils recherchent. Et finalement, on s'est dit, il faut transformer ce mariage d'amour en un mariage de raison, qui serait bâti justement, créer, voir où sont les intérêts des gens, économiques ou sociaux, et essayer de bâtir sur ça pour faire un système de gestion de tous ces services, de toutes ces idées. Et c'est là où on a fait un petit laboratoire dans des petits villages et on a vu qu'il y avait vraiment un intérêt majeur. Et chaque fois qu'on parlait, on vient pour le développement, tout de suite les gens écoutent. Voilà.
Donc ça n'est pas une utopie pour vous ?
Non, absolument pas. Moi j'ai foi en ça parce que je suis un homme de terrain. Je ne suis pas adhéré à un bureau en train de faire des théories comme ça. On pense à la chose, on l'exécute sur le terrain, on voit la réaction. Quand on voit la réaction, eh bien oui. Pour moi, c'est très enrichissant. Et quand il y a des gens, même des musulmans qui viennent me dire « Mais monsieur, vous êtes là, il n'y a pratiquement aucun de nos responsables qui est venu et vous êtes venu dans cette région reculée que personne ne connaît », bien, on apprécie beaucoup. Incluez-nous dans votre stratégie de développement.
Est-ce que vous comptez vous présenter aux élections ?
Oui, bien sûr, je compte me présenter aux élections parce que pour exécuter un peu ce que nous sommes en train de faire, il faut qu'on soit de l'intérieur. Actuellement, nous sommes en train de travailler en parallèle préparer les élections, donc, avec un projet bien clair. Et deuxièmement, aujourd'hui, les gens ont faim. Aujourd'hui, on n'a pas de médicaments. On a besoin d'essence. Il faut trouver des solutions aujourd'hui, en attendant de faire le grand chambardement dans un an.
Est-ce que ce plan, cette vision, j'allais dire, du Liban, c'est celle de Bachir, hein, Gemayel, qui était un peu votre frère, si je puis dire,
oui, en effet.
Spirituel, donc, décédé, enfin, assassiné 3 semaines après son élection. Est-ce que c'était ce qu'il voulait faire?
Absolument. Il rêvait de faire de ce Liban, il a lancé le slogan de 10 452 km², qui est la superficie du Liban, en disant que je veux faire de ce pays un pays modèle sur lequel vont se baser tous les pays qui ont des problèmes pour penser comment on peut régler ce problème. Et je vais vous dire une petite chose. C'est là où on a réussi dans ce pays à faire. Et vous savez, et nous avons un grand problème entre les musulmans et les chrétiens. Bon, aujourd'hui, le problème n'est plus musulman-chrétien, mais sunnite-chiite essentiellement. Ensuite, druze-chiite. Ensuite, chrétiens, etc. Donc, pratiquement aujourd'hui, il y a une atomisation au niveau des communautés. Alors, il y a un groupe qui ont réfléchi à la chose. Ils se sont dit, pourquoi on ne trouverait pas quelque chose qui rassemblerait tout le monde, les 18 communautés. Et ils ont trouvé le 25 mars, le jour de l'Annonciation faite à la Vierge, que ce 25 mars devienne une fête chômée islamo-chrétienne.
C'est ça, Marie fédératrice, oui.
Et c'est Marie qui est la fédératrice, et ça marche chaque année, le 18, tout le monde se rassemble pour prier ensemble pour la paix au Liban.
Marie, Mariam, voilà.
Voilà.
Je vous remercie, docteur Abou Nader. Merci, Nathalie Duplan. Donc, je rappelle le titre de votre livre, « Liban, les défis de la liberté, le combat d'un chrétien d'Orient ». Et donc, c'est vous, Fouad Abou Nader, et c'est publié aux éditions de l'Observatoire.
Merci beaucoup, madame.
Merci, merci Geneviève. Beaucoup.
Le système éducatif libanais est lourdement menacé par la crise et pourtant c'est bien le réseau d'écoles catholiques et protestantes ainsi que ses universités dont la célèbre Université Saint-Joseph de Beyrouth qui est à l'origine de cette exception libanaise au Proche-Orient. Et en cela, le livre de Khalil Karam et de Charbel Matta sur la mission jésuite de Gazir de 1843 à 1965 donne un éclairage précieux. Il raconte les 122 années de cette mission jésuite et de son séminaire, avec des documents, des photographies en noir et blanc et de nombreux témoignages. Publié par les presses de l'Université de Saint-Joseph, le livre a obtenu le Grand Prix littéraire de l'œuvre d'Orient, dont le jury était présidé pour la deuxième fois par Madame Hélène Carrère-Dancos. Avec nous en ligne de Beyrouth, Khalil Karam. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous avez été ambassadeur du Liban près de l'UNESCO, représentant du chef de l'État pour la francophonie. Vous avez été chargé d'affaires auprès du Saint-Siège et vice-recteur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth de 2008 à 2013. Vous avez signé donc avec Charbel Matta, professeur à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, ce livre. Comment avez-vous reçu ce grand prix?
Vous savez, honnêtement, dans la situation actuelle, que vit le Liban, c'est une situation franchement impossible. C'est une lueur d'espoir. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact que ça a eu au niveau des médias et des différentes communautés libanaises. J'ai reçu pas mal d'appels de félicitations de mes compatriotes musulmans. Parce que vous savez, ce séminaire, c'est à la base, si vous voulez, de la francophonie institutionnelle au Liban. Quoique les premiers prêtres jésuites qui sont venus, c'était des Italiens, mais très rapidement, le nombre, c'était devenu à 90% des jésuites français qui sont arrivés à un nombre de presque 400 qui sont passés par ce séminaire. Donc ce séminaire est à la base de la création du Liban moderne, et là je suis très confiant en disant ça, parce que c'est là où le patriarche Houaye, qui a été nommé vénérable en juillet 2019, c'est là qu'il a été formé par le très célèbre père Philippe Kuch, et c'est là où on a formé cette personnalité très importante dans l'histoire du Liban, parce que c'est le patriarche Houaye qui est le créateur du Grand Liban avec le général Gouraud le 1er septembre 1920. Donc il y a une masse de symbolisme dans la création de ce séminaire en 1843 et avec tout ce qui s'est passé au 19e siècle. Dans la montagne libanaise, les jésuites étaient présents et leur rôle était toujours positif de médiateur pour arrêter autant qu'ils pouvaient les drames qui sont arrivés entre les différentes communautés. Bref, ce livre est une référence que nous espérons va être utile pour les générations à venir surtout, parce que souvent les jeunes générations ne s'attardent pas beaucoup aux détails historiques. Mais là, spécifiquement dans cette partie de l'histoire du Liban, c'est très important de la connaître pour connaître l'histoire actuelle du Liban.
Oui, Khalil Karam, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que cette mission jésuite, c'est à semer des graines, en quelque sorte, du Liban moderne.
Tout à fait, parce que les premiers responsables, si vous voulez, politiques, par exemple, le premier président du Conseil des ministres, Pacha Adib, en 1926, c'est un ancien de ce séminaire. Et ensuite, c'est un nombre énorme de responsables qui étaient ministres, présidents de la République, qui sont des anciens des pères jésuites, que ce soit au séminaire ou bien quand ils se sont déplacés à Beyrouth par la suite. Donc c'est... Et surtout au niveau des prélats, des églises orientales, vous avez plein de patriarches, d'évêques, d'archevêques et de curés qui sont passés par ce séminaire. Donc l'important, c'est qu'il est arrivé au bon moment pour la création d'une entité multiconfessionnelle, démocratique, etc. Un exemple pour tout l'Orient.
Est-ce que ça a été difficile, parce que c'est un très beau livre, hein, il faut le souligner, avec énormément d'archives photographiques notamment, des témoignages. Est-ce que ça a été difficile à bâtir ce livre?
Pour être honnête, ça a pris 8 années de recherche, parce que ce n'est pas facile. Il fallait aller à Paris, bien sûr, à Vanves, dans les archives jésuites, mais surtout les archives jésuites de la Bibliothèque orientale et des jésuites à Beyrouth, à Brésil, les familles des pères jésuites. Ensuite, j'ai été à Rome, personnellement, dans les archives jésuites de Rome, qui sont d'une... C'est quand on rentre dans ces archives, on n'a pas envie de sortir. Donc, c'était vraiment un travail pénible, bien sûr, mais surtout passionnant.
Ce livre reprend ce qu'on appelle le diaire, hein, c'est-à-dire le journal quotidien qui était tenu par les jésuites. Hein. Et en cela, c'est une source formidable de renseignements, notamment là je pense à la période de la guerre de 14, hein, et de la grande famine au Mont Liban. Eh bien, on a beaucoup de détails sur ce qui se passe, sur les gens qui ont faim, sur les sauterelles, etc. C'est un témoignage vraiment de première main.
Oui, bien sûr. C'est un, vous savez, les jésuites, c'était très précieux. Les dières qu'on a découverts, qui au départ, on a l'impression que ce n'est pas prétentieux, mais quand vous allez dedans en profondeur, c'est extraordinaire comme source d'information. En fait, on n'en a pas d'équivalent. On n'en a pas d'équivalent. Et là, j'assume l'entière responsabilité de ce que je dis. Donc, les dières étaient vraiment... La télé de l'époque, si vous voulez. C'était à l'époque, il n'y avait pas autre chose. Et il ne faut pas oublier qu'en 1861, l'empereur Napoléon III avait dépêché Ernest Renan au Liban pour présider la mission archéologique de Phénicie. Et l'été 1861, Ernest Renan le passe à Gazir, en face du séminaire. Et dans le diaire, on lit: Monsieur Renan s'amène à Gazir sans nous consulter, sans consulter les pères jésuites. Mais soudain, ils deviennent amis, ils lui offrent le papier et l'encre pour écrire un livre très controversé en France à l'époque, La vie de Jésus. La vie de Jésus a été écrite à Gazir avec l'encre et les papiers des jésuites qui vivaient en face de la maison louée par Ernest Renan en 1861.
Une question, Khalil Karam. Comment la population, à l'époque, au XIXe siècle, la population donc de Gazir, a accepté l'arrivée des jésuites? Comment ça s'est passé? Il y a quand même eu quelques conflits à un moment donné, là, je pense, au conflit de l'eau que vous signalez dans le livre.
Oui, on a voulu exprès dire que tout n'était pas lune de miel, mais le conflit de l'eau est un conflit de village. Ça vous explique que les jésuites sont devenus villageois, comme les villageois. Donc, il y avait un problème de l'eau, un problème de frontières, etc. Mais ça, c'est un petit épisode. En fait, la vie de toute la région tournait autour de ce séminaire, même économique, parce qu'ils ont formé une main-d'œuvre spécialisée, que ce soit au niveau de la couture, au niveau de l'agriculture, au niveau de plein de choses. Ils avaient même formé des gens dans un atelier photographique. Donc, l'importance de ce séminaire, c'était qu'il n'a pas seulement remis à niveau les églises orientales, mais il a aussi donné une renaissance à toute cette région autour de ce séminaire. Donc, les villageois ont fini, quand les jésuites sont partis, les gens étaient très tristes. Très, très tristes. C'était comme un arrachement.
Et précisément pourquoi ce séminaire a-t-il, donc, qui a été fondé donc, au XIXe siècle, a-t-il fermé en 1965? Pourquoi?
Non, attention, il n'a pas fermé. Il a été offert au patriarcat maronite pour en faire un excellent, maintenant c'est un excellent séminaire maronite. Vous imaginez le petit Liban, on a d'autres séminaires maronites. Dans seulement ce séminaire, on a 115 séminaristes. Maronite. Donc, c'est un séminaire qui est très brillant actuellement et qui a beaucoup de succès. Donc, les jésuites ont dit que, vu qu'on a un manque d'effectifs, on va se déplacer à Beyrouth et on va offrir ce séminaire à l'église maronite qui en avait vraiment besoin et ils l'ont offert au patriarcat maronite. Non, c'était une noble entreprise, une noble décision.
Une décision courageuse, parce qu'effectivement, à la fin du livre, donc il y a ce départ, hein, ce départ qui devait quand même être un peu douloureux,
oui,
non?
C'est vrai. C'était le départ, c'était un départ. En fait, honnêtement, les villageois ont mal pris la chose, pour dire les choses comme elles sont. Ils ont mal pris la chose, mais on a très bien compris que c'était dans l'intérêt de l'Église maronite et dans l'intérêt du patriarcat maronite qui en a fait un magnifique séminaire maronite.
Dernière question, Khalil Karam. Donc, le rôle des jésuites dans le système éducatif au Liban est évidemment, comme nous l'expliquions, extrêmement grand, très grand. Comment voyez-vous l'avenir de l'éducation au Liban dans cette crise très forte?
Maintenant, au niveau francophone, parce que vous me dites qu'il me reste très peu de temps, la France a fait un don très généreux aux écoles du système francophone éducatif du Liban. C'est ce qui a donné une bouffée d'oxygène, que ce soit aux missions laïques ou bien aux écoles catholiques du Liban.
Oui, c'est effectivement.
Ça, c'est très important. Mais quand on dit école catholique, ça ne veut pas dire que, par exemple, une école catholique au sud du Liban, elle est à 80% chiite, du point de vue étudiant, élève. Donc, même au niveau de l'Université Saint-Joseph, le nombre des musulmans est sûrement plus que le tiers. Donc, ça, c'est une mission éducative au niveau de toutes les communautés libanaises. Donc, le rôle français, après l'explosion du port de Beyrouth et la dégringolade économique, a été vraiment stratégique et très important au niveau du système. Ça nous a donné une bouffée d'oxygène pour continuer l'année universitaire et entamer l'autre. Mais ce n'est sûrement pas suffisant. C'est pour cela qu'on fait maintenant appel à la diaspora pour qu'ils nous aident à garder le système comme il était, parce que c'était un système d'élite. Nous étions les meilleurs au Proche-Orient et maintenant nous vivons une situation très, très difficile, que ce soit au niveau universitaire ou bien au niveau scolaire. Maintenant, au niveau scolaire, c'est plus délicat parce que si on fait marche arrière, ça risque d'être irréversible. Donc, il y a un effort inouï qui se fait pour que le système survive.
Quelle est votre espérance pour le Liban?
Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui au Vatican est très important. C'est vrai que Staline avait dit que le pape n'avait pas assez de divisions armées, etc. Bon. Mais nous savons tous quelle est l'importance de la diplomatie vaticane, quoique pas très visible, mais sûrement très efficace. Il y a eu des réunions dernièrement entre les Américains, les Français et les Saoudiens, et nous espérons beaucoup qu'il y ait un genre de convergence entre la diplomatie vaticane, la diplomatie européenne, la diplomatie américaine et la diplomatie arabe pour une bouée de sauvetage pour le Liban. Il le mérite. On a toujours été les premiers dans plein de secteurs et nous avons toujours été utiles dans notre région. C'est pour cela, quand je vois les gens partir, je leur dis, l'Occident n'a pas besoin de chrétiens, c'est l'Orient qui a besoin de ces chrétiens.
Je vous remercie, Khalil Karam. Donc, je rappelle que vous signez avec Charbel Mata la mission jésuite de Gazir 1843-1965 et c'est aux presses de l'Université Saint-Joseph. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Ludivine Amadou vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
En sol majeur,